Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Pour l'amour du ciel, faites ce qu'il vous dit.
You talking to me? You talking to me?
Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la haine. Tout ce qu'il voulait, c'était les réponses que nous cherchons tous.
On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Bonjour et bienvenue dans cette petite heure de revue culturelle garantie sans Barack Obama et toujours sans Panda et sans Nabila, avec l'équipe du magazine Focus Vif, je m'y engage. Qui est là cette semaine derrière le mic? Il y a celle dont le ramage se rapporte certainement au plumage et qui s'occupe des pages livres, c'est Isaline par ici. Salut Isaline.
Salut Myriam.
Alors j'ai un petit message à te transmettre de la part de ton fan, tu vois, ton fan.
Oh, mon fan, oui.
que nous appellerons Modern
Time. Il est sorti de l'hôpital.
Et il nous dit, j'entre vois sérieusement de me faire tatouer Isaline Parisis sur la fesse gauche.
Mais qu'il le fasse.
Voilà.
Pourquoi la gauche?
Je ne sais pas. Probablement une
c'est
question
politique,
d'orientation.
C'est politique. C'est politique.
Oh, c'est un acte militant. Mais il n'y a pas que de jolies filles intimidantes dans cette émission. Il y a aussi de jolis hommes, des vrais, des loups, des fous. Il y a Laurent Aubrex, le sosie officiel de Joanne Van de la Notte. Et...
Ah ben voilà.
Voilà, mais jamais vu dans cet angle.
Bonjour.
Et chef des pages musique.
Il regarde vachement plus beau que Johan.
Mais bien sûr, et beaucoup plus jeune, beaucoup plus de sève dans Laurent. Ouais. Et il y a Guy Verstraten, doublure lumière officielle de Greg le millionnaire. Et journaliste à tout faire. Poly talentueux et non poly handicapé.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. De quoi qu'on cause aujourd'hui? Eh bien, on parle du dernier film de Spike Jonze, du nouveau disque de François and the Atlas Mountain, de la série Sherlock et du livre Nomère qui a remporté le prix première. C'est le moment, c'est l'instant, coup d'envoi du 11e épisode de la deuxième saison de Focus Store.
Focus Store!
Please wait as your operating system is initiated.
Hello, I'm here.
Hi.
Hi. I'm Samantha. Good morning, Theodore.
Good morning.
You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed?
You're too funny.
Okay, good. I'm funny. I want to learn everything about everything.
I love the way you look at the world.
Her. Avec un H comme dans le pronom anglais, c'est le nom du nouveau film de Spike Jonze. Clipper de génie et réalisateur culte, on lui doit notamment des petites choses, hein, comme Being John Malkovich, adaptation et Where the Wild Things Are. Cette fois, et encore avec un scénario de lui-même, il raconte une histoire d'amour évanescente entre un homme et un système d'exploitation informatique. Ça se passe dans un futur crédible, ça se passe demain en fait, avec un petit peu plus d'écran tactile et, fait étonnant, avec un peu plus de pantalon à taille très haute. Je n'ai pas vraiment hâte que ça se produise, hein, je viens de dire. L'homme, c'est Joaquin Phoenix, toujours aussi attachant et malaisant à la fois. Hein. Mais ça va aller, Guy, on se mouche. Ça nous met très mal à l'aise, encore plus que Joaquin Phoenix.
Je me suis mouché hors micro.
Et le système d'exploitation informatique, c'est Scarlett Johansson, toujours aussi sexy, toujours aussi canaille, et même sans corps, puisqu'on entend juste sa voix. Il y a de jolies scènes d'amour dans Her, comme cette première nuit sur un écran tout noir. Ceci dit, c'est un petit film, hein, un petit film pourtant un peu long pour ce qu'il raconte, qui se regarde avec un sentiment de déjà-vu. Moi, j'ai pensé à Thomas est amoureux et à Simone. Bref, je dois dire que j'ai pas mal regardé ma montre. Laurent Aubrex, est-ce que ça a aussi été ton cas?
Oui, après la première heure, je me suis un petit peu ennuyé.
Oui, les sept dernières sont vraiment les plus dures.
Oui, oui.
Les sept dernières?
Zor.
Oui, de fait. Non, mais oui, j'ai pas complètement accroché au principe. En fait, je crois qu'il est piégé par le fait que son principe fonctionne terriblement bien. Donc, Joaquin Phoenix tombe amoureux d'un système d'exploitation. Mm-hmm. Et au final, il développe une relation qui est tellement proche d'une relation humaine véritable que ça en devient presque... Moi, à un moment, j'ai trouvé ça presque
d'amour.
Banal.
Ouais.
Une bête histoire d'amour.
C'est ça l'originalité de la chose, aussi. La banalité, c'est l'originalité.
Oui, sauf que ça dure quand même 2 heures.
Ouais.
Et donc, 2 heures de discours amoureux qui, finalement... On voit se développer un peu les mêmes sentiments qu'on voit dans 36 autres histoires amoureuses. Voilà, du coup, moi, je me demande un peu à quoi bon. Après, Phoenix est absolument incroyable. Ouais. Je le trouve super. Il est parfait. Il est complètement juste dans son interprétation. La voix, paradoxalement, de Scarlett Johansson est presque trop incarnée, quoi. Là aussi, c'est très bizarre d'avoir choisi une voix d'ordinateur qui, finalement, est tellement chargée que ça en est presque frustrant parce qu'on on la voit, mais forcément sans la voir. Donc il y a aussi cette espèce de pour moi, une espèce d'erreur de casting. Alors que, bizarrement, après ce que j'ai lu, c'était une autre actrice dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, mais qui avait tourné tout le film, qui a fait une première voix. Et c'est après que tout a été
Ouais, parce que la performance de Joaquin Phoenix, on ose imaginer que Joaquin Phoenix a eu une réplique pendant qu'il était en train de... Parce qu'il a beaucoup de plans face caméra tout seul, où il est en train de discuter avec quelqu'un qui est dans son oreillette, finalement.
Qu'il a effectivement une oreillette.
Oui, qu'il a effectivement quelqu'un qui lui répond, parce qu'autrement, ou alors c'est vraiment une...
ou alors c'est un génie.
Mais il a dû refaire, me disait Jean-François Leggers, notre chef cinéma, il a dû refaire des scènes avec la nouvelle voix de Scarlett Johansson. Enfin voilà, tout ça pour dire que cette voix est en effet super incarnée, super sexy, super... mais du coup est trop chargée et on se demande à nouveau, tiens, au fond, si c'est pour la faire ressembler tellement à une vraie voix humaine, mais... pourquoi finalement être passé de
gros par cette histoire plus crédible, d'exploitation. T'aurais trouvé ça plus crédible qu'elle soit plus robotique, la voix ?
Je trouve que si le propos du film, c'est d'avoir une histoire d'amour entre un humain et une machine, si tu enlèves toutes les propriétés de la... En fait, c'est un peu comme si on retirait toutes les propriétés de la machine, on la remplissait d'humain, et qu'à l'inverse, Phoenix était quasi... on enlevait toutes ses... caractéristiques humaines, c'est quelqu'un quand même un peu apathique, qui est tout le temps connecté aux machines, qui est tout le temps dans son truc, quoi, dans avec ses oreillettes, tout le temps connecté. Et on pourrait dire qu'il y a un renversement des rôles, l'homme devient machine, machine devient l'homme. Mais je trouve que ça tient pas forcément la route et qu'on en arrive finalement à une histoire d'amour assez banale. Après, voilà, il y a plein d'autres qualités au film, comme les décors, qui pour une fois sont des décors futuristes, mais qui sont pas non plus complètement dépressifs et désincarnés, et un peu morbides comme ça. Il y a un truc un peu, c'est presque comme une pub pour Apple, en fait.
Ouais. Ça pourrait être dans 10-15 ans, finalement.
Mm-hmm. Ouais, tout à fait.
Et alors, j'ai trouvé le nom de l'actrice qui prêtait sa voix tout d'abord au personnage. C'est Samantha Morton.
Ouais. Voilà, tout à fait.
Mais qui est Samantha Morton ? Ça, c'est une bonne question. C'est une Anglaise de 36 ans. Quelqu'un sait ?
Non.
Voilà, elle jouait dans John Carter, apparemment, le plus mauvais film de l'histoire du cinéma et un gouffre financier pour Disney. Voilà, c'est peut-être ça, finalement. Bon. Guy, toi ?
Oui, bah écoute, j'ai plutôt aimé le film, même si, effectivement, je pense qu'il y a des longueurs. L'écriture... Bon, Spike Jonze, pour revenir un peu sur son parcours, c'est quelqu'un dont j'ai énormément aimé... si pas le premier film, Being John Malkovich, qui était très bien, mais surtout le deuxième, Adaptation, que je trouvais assez fantastique.
C'est le film où Nicolas Cage est bien, c'est ça.
Il joue lui et son frère jumeau, en fait, sur un scénario de Charlie Kaufman, qui avait également signé le scénario de Being John Malkovich. Donc ici, c'est lui qui écrit, donc Spike Jonze écrit lui-même le film, et j'ai l'impression qu'il y a il pose plein de questions qui sont super intéressantes. La manière dont la machine se développe... et finalement dépasse quelque part l'intelligence du cerveau humain et s'ennuie finalement, parce que c'est un peu ça qui lui arrive quelque part, hein, et c'est un peu finalement ça, on en arrive à ça, ça devient redondant pour cette voix qui finalement a d'autres territoires à explorer intellectuellement. Et surtout je pense qu'il y a Il y a le côté vraiment, ça pose la question du comment, de quoi est-ce qu'on tombe amoureux ? Est-ce qu'on tombe amoureux de son propre reflet, finalement ? Est-ce que c'est ça qui implique, enfin ça qui engage l'amour ? C'est le fait, parce que lui, il y a un certain nombre de paramètres qui l'entrent dans une machine, et la machine finalement réagit à ce que lui est, et donc quelque part, c'est à se demander, est-ce que finalement, quand on tombe amoureux, est-ce qu'on tombe amoureux de quelqu'un qui nous ressemble ? Et est-ce que c'est ça qui crée le lien ? Est-ce
d'ailleurs, le titre, c'est pas she, c'est her. Donc c'est sa chose, quoi. C'est pas elle, c'est pas l'autre, le personnage féminin. Mm-hmm. C'est ce que lui a créé.
Tout à fait. Ouais. Mais ça pose ces questions-là, et ça les pose parfois de manière. On a l'impression que c'est un peu touffu. Qu'il y a plein de choses qui sont. On ne sait pas exactement quel est le message principal qu'il veut faire passer. Mais en tout cas, il veut faire passer plein de questions. Et ça, c'est intéressant. Après, il y a des longueurs. Il y a des redites. Il y a des scènes qui se répètent comme ça, où on se dit finalement ça ne sert pas à grand chose de répéter les scènes,
des moments de complicité à deux,
oui, où tu voilà, il y a des... Mais en revanche, il y a plein de choses qui sont très très réussies, et notamment effectivement tout l'aspect filmé de la chose, parce que c'est quand même c'est quand même un virtuose. Quand les petites scènes avec son jeu vidéo là, où il y a le petit bonhomme en jeu vidéo qui arrive, qui l'insulte, c'est des scènes assez géniales. Au niveau de la créativité, on sent qu'il y a un petit côté Gondry chez Spike Jonze, en peut-être moins bricolo et peut-être plus moderne, mais ça reste quand même un objet cinéma intéressant qui est, je trouve, déforcé par ses longueurs, en effet.
Isaline, toi, t'as plutôt kiffé Sans Réserve.
Oui, Sans Réserve, je trouve que c'est un très joli film. Alors, effectivement, un peu long. Mais je trouve, voilà, vous posez la question de savoir quel est l'intérêt, finalement. Finalement, l'intérêt du film et tout son intérêt, toute sa bizarrerie aussi, c'est de faire porter une histoire d'amour par un seul personnage, finalement. Mm-hmm. Et je trouve que c'est quand même déjà, un prétexte qui m'intéresse, qui m'interpelle. Je trouve que c'est quand même une sorte de version 2.0 de l'amour impossible. Comme ça, il y a quelque chose... on est dans un futur, vous l'avez dit, très très probable. Où faire des recherches sur le net avant un rendez-vous, c'est jugé très romantique. Mm-hmm. De faire des recherches sur la personne qu'on va rencontrer. Le décor, je trouve vraiment, ça c'est quelque chose qui m'a énormément, énormément plu, très travaillé, assez fascinant, son esthétique qui est à la fois froide et à la fois très consistante, avec tout ce que ça charrie de solitude et de presque une sensation physique en fait de solitude, je trouve.
C'est vrai.
Formellement, j'ai trouvé ça très intéressant. Et son personnage à lui, c'est quand même, je trouve, un personnage extrêmement attachant. Alors évidemment, Joaquin Phoenix est absolument magnifique.
Dis Joaquin.
C'est peut-être comme ça qu'il s'appelle. Je ne sais pas.
Oui. Il est un peu moins, si pas cabotin, en tout cas un peu moins surhabité comme d'habitude, quelque part. Parce que dans ses précédents rôles, il a vraiment un côté où tu dis, ok, on va de nouveau assister à une performance de Joaquin Phoenix. Finalement, il est plus réservé.
J'ai l'impression qu'il existe et qu'il émane de lui comme ça une très grande solitude, une très grande mélancolie. Et c'est vraiment cette solitude traversée par plein de vies, finalement, ce qu'on n'a pas dit, mais il est écrivain public, une sorte de. Rédige les lettres, des lettres manuscrites. Ce qui est très beau, c'est qu'il les dicte et puis la machine les écrit à la main. Pour les autres, et donc voilà, c'est vraiment une solitude qui est traversée par plein d'histoires d'amour, finalement, plein de vies. Il est déprimé, il a rompu avec sa femme, cette déprime ne passe pas, il a l'impression d'avoir ressenti tout ce qui lui reste à ressentir dans la vie, et il commence à tomber un peu amoureux, sans doute, Guy a raison, il tombe amoureux de l'amour, quoi, au départ, à travers ce système d'exploitation, et moi je suis pas d'accord, je trouve qu'il y a vraiment une évolution dans leur relation, une évolution dans la voix aussi de Scarlett Johansson, qui je trouve devient de plus en plus habitée au fur et à mesure que cette relation est nourrie, finalement, je trouve ça assez fascinant.
Mais c'est une relation amoureuse terriblement banale. Quoi.
Terriblement banale et terriblement, oui, tout à fait, et terriblement inédite aussi, comme toutes les relations d'amour, finalement, et je trouve que cette relation évolue.
C'est vraiment beau, Isaline.
C'est bien fort, c'est bien.
Mais non, mais ça, cette relation évolue et elle finit par dépendre d'autant de facteurs qu'une vraie relation, avec tout de même cette particularité assez fascinante que pose le film. Est-ce que ce que cette voix ressent est réel ou programmé ? Et je trouve ça assez fascinant. Moi, je trouve que c'est vraiment un film qui pourrait être un roman japonais écrit par Haruki Murakami et réalisé par Sofia Coppola. Et c'est un travail comme ça sur la surface et sur la mélancolie qui m'a vraiment scotché. Et je trouve qu'il y a particulièrement quelque chose aussi de Eternal Sunshine de Spotless Mind, une manière comme ça de parler de l'amour qui me plaît et peut-être plus une manière de parler de la relation qui s'est finie et sur laquelle il n'arrive pas à
Ça, c'est très très beau.
Quelque chose de très elliptique, de très poétique, de presque abstrait dans la manière dont il convoque cette histoire d'amour en très peu de mots, en très peu d'image, c'est jamais bavard, c'est très simple et à la fois, et je trouve qu'on a un degré d'intimité, un degré de tristesse et de chagrin qui est quand même assez profond. Et je trouve ça, d'une grande justesse. Et j'étais très contente de la fin. Parce qu'on aurait pu quand même s'attendre à une fin très moralisatrice, où on aurait pu dire
Moi j'y ai trouvé un peu de
ça
morale,
l'est justement.
Mais c'est une fin qui est assez logique, c'est vrai que c'est assez décevant, mais c'est une fin qui est assez logique et à la fois un peu surprenante aussi, c'est-à-dire qu'on aurait pu tomber dans le travers de nous dire les relations humaines comptent plus qu'évidemment que la technologie et ce genre de blabla qu'on attend un petit peu tout le film et qui finalement ne vient pas ou en tout cas pas
il y a quand même une sanction de la relation déviante entre guillemets, j'ai vu ça comme ça et j'ai pas encore très bien su dire de quelle morale il était question, mais j'en ai vu une et ça m'a dérangée.
C'est vrai, c'est un petit peu une ode à la normalité, quelque part, la fin.
Je suis pas sûre. Ouais.
Ok. Bon. Une petite cotation, hein. Oui, redescendant sur Terre, je donnerais 6 sur 10 pour ma part.
Ah oui, moi aussi.
Ouais. Oh, Laurent, ouais. C'est chouette. Isaline,
bah, 8.
Et Guy,
je vais donner 7 en rappelant que il est toujours bien d'aller voir les clips de Spike Jonze, notamment pour Weezer, pour Fatboy Slim et d'autres gens comme ça qui sont assez exceptionnels.
Et il faut noter aussi que dans les pages de Focus, Louis Danvers, qui a chroniqué le film et qu'il a adoré, nous dit ceci: entre réel et virtuel, Spike Jonze signe un film d'amour aussi beau que bouleversant et significatif.
I don't care how you faked it. I want to know why.
The one person he thought didn't matter at all to me was the one person that mattered the most. I think I'll surprise John. Go up to Baker Street, who knows, jump out of a cake.
Baker Street? He isn't there anymore. It's been 2 years. He's got on with his life.
What life? I've been away.
Sherlock. Sherlock, c'est seulement 9 épisodes et c'est déjà depuis un moment, hein, une série totalement culte. 3 saisons de 3 épisodes qui revisitent le classique de Sir Conan Doyle avec une fidélité assez surprenante à l'original, même si les intrigues se passent forcément ici de nos jours avec tous les moyens technologiques modernes. La série n'hésite ainsi pas à user et surtout abuser des SMS, alors que le SMS, tout le monde sait que c'est terminé. C'est donc Sherlock qui a fait connaître Benedict Cumberbatch. Ah, bon. Ah oui, vous ne le saviez pas ?
Il a l'air atterré.
Pas du tout.
Non, c'est maintenant, c'est les messageries instantanées, le type WhatsApp. Ouais, apparemment, le SMS n'a plus la cote auprès des jeunes. Donc, il va falloir... Benedict Cumberbatch va leur WhatsApper. Immense acteur, quand même, à la tête de Bogdanoff, qui joue maintenant chez Steve McQueen et chez Peter Jackson, quand même. Ici, il est le fameux détective privé, sociopathe de haut niveau, absolument infect et très attachant, à la fois. Il n'est pas tout seul, puisque comme le veut l'histoire qui date du 19e siècle, il est accompagné du bon Dr Watson, et c'est Martin Freeman, et de son double maléfique Moriarty, joué par le glaçant Andrew Scott. Sherlock, c'est vraiment la Rolls de la série grand public, du divertissement pur mais poussé par une réalisation plus que léchée, où rien n'est laissé au hasard, et par une écriture d'une efficacité rare. Moi, j'ai essayé d'écrire une série, donc je peux vous dire que je vois un peu quelles sont les ficelles, et c'est très très fort. Il y a un twist dans chaque scène, c'est tout à fait dingue. C'est du très 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 haut de gamme, c'est du très 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 richement doté aussi, on n'a pas vraiment les moyens de faire ça chez nous. Bref, Guy Verstraeten, dis-moi, qu'as-tu pensé de cette série ?
Ben, tout pareil que toi.
Ah ouais.
Voilà, bon. Donc ça pourrait tout à fait s'arrêter ici, ma contribution. Ouais. Non, que dire de plus ? Effectivement, c'est assez brillant, Sherlock. C'est difficile de pas manger tous les épisodes. Moi, je l'ai découvert assez sur le tard, je dois dire.
Oui, moi aussi. Mais... J'avais pas aimé le premier épisode. Je trouvais que c'était un énième Dr. House, inadapté socialement, pas gentil, mais qui était quand même très très doué.
Ouais, mais moi, dès que j'ai découvert la série, je me suis laissé vraiment happé par cette espèce de surefficacité à la fois dans... Mais c'est complètement brillant dans l'écriture, parce qu'il y a plein de circonvolutions partout, mais ça a du sens. La mise en scène est ultra dynamique, très technologique, effectivement, mais ça donne... C'est pas juste de la poudre aux yeux, ça donne du sens à l'intrigue. Les acteurs sont tous les deux fantastiques. Et c'est vrai que la dernière saison, la troisième, je l'avais vue semaine après semaine, en attendant vraiment le lundi matin que ce soit diffusé sur la BBC la
veille. Quel dernier épisode, quand même!
C'est fantastique. Ah, mais alors, ouais. Ce qui était rigolo, c'est que dans la fin de la deuxième saison, on a une espèce de mort de Sherlock, de Sherlock Holmes, qui est dans la troisième. Voilà, comme ça avait un succès dingue, la troisième saison a reprise et...
Parce que c'est ce qui est arrivé avec les bouquins à l'origine aussi, avec Conan Doyle qui a fait mourir son héros, qui a dû le ressusciter
de manière...
Et alors, sous la pression du public.
Public, ouais. Voilà. Mm-hmm. Et alors ce qui est très fort, c'est que le premier épisode de la troisième saison, c'est vraiment... Il se joue de ça avec un humour, un recul...
Est-ce que c'est pas tout moche là justement ? Moi j'ai pas vu la...
Mais non, mais là
j'ai
tu
vu
sens...
que le début de la troisième saison, en effet, Sherlock revient. Est-ce qu'on n'est pas... en train de sauter au-dessus du requin. Est-ce que on est... Alors que
non.
Jusque-là,
la
série jouait plutôt bien avec le crédible, le non crédible. Et y avait des trucs qui étaient too much, mais qui passaient tout à fait dans l'ensemble. Ici, j'ai l'impression qu'on est vraiment borderline. Et je me demandais si, au cours de cette troisième saison, justement, on continuait à jouer sur le fil ou alors ça...
Oui et non, parce qu'en fait, ce qui est, là où on pourrait sauter au-dessus du requin, comme tu le dis, c'est s'il n'y avait pas d'humour. Dans le dispositif, mais ici ils se moquent quelque part. C'est vraiment, ils disent au public, voilà, vous savez très bien ce qui est en train de se passer, nous-mêmes on n'est pas sûr de comment est-ce
mais
que
oui.
On vous donne des hypothèses, jouez avec, l'important maintenant c'est qu'on est reparti et acceptez ça. Et toi t'es derrière ton écran et tu dis bah oui, autant, tant que ça reste aussi efficace, tant que ça reste aussi bien écrit par Steven Moffat et son complice, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs maintenant, qui sont de toute façon pas les derniers venus en matière de série anglaise, tu dis continuez, faites-vous plaisir, et le troisième épisode s'arrête et tu dis ok, encore attendre pour la prochaine. Voilà. Mais en même temps, il y a une telle densité dans l'écriture et dans les intrigues policières que c'est difficile de tenir ça. C'est trois fois 1h30 à chaque fois, je pense. C'est difficile de tenir ça sur une saison de 6, 7, 10, 12, 13 épisodes. Donc on va attendre la prochaine. Moi, je suis absolument fan. Petite réserve, la seule en ce qui me concerne. Mm-hmm. Le personnage de Moriarty.
Tu ne l'aimes pas?
Je suis pas convaincu du tout.
Je
trouve hors contexte, hors...
Il est méchant, mais il est méchant comme un enfant, donc ça le rend encore plus méchant, parce qu'il est incontrôlable.
Ouais, mais l'acteur qui joue, j'y crois pas, en fait.
Oh, si, il est beau, et en même temps, il est affreux, il est élégant, et il chic comme une vache, enfin, il a un côté tellement rebutant, moi, je l'adore, quoi.
Ouais, moi, je le trouve pas à la hauteur de Sherlock, mais voilà.
Qui est à la hauteur de Sherlock, hein.
Et puis Martin Freeman, qui dans le Dr. Watson est parfait aussi.
Et leur histoire d'amitié est vraiment très touchante.
Et sa relation avec les femmes et tout ça, c'est vraiment génial.
Et l'horlogeuse qui les prend pour des gays.
Cette série est...
Oui, c'est vrai, c'est vraiment bien. Isaline, est-ce que tu vas...
Moi, je vais tout de suite vous confesser que je n'ai vu que la première saison.
Quoi?
Eh oui. Mais je suis plutôt pour, après tout, voilà, Sherlock Holmes est vraiment devenu une vraie franchise, hein. Il y a des jeux vidéo, des livres à n'en plus finir, mm-hmm. Il y a même une science qui est née au 19e siècle et qui s'appelait Holmesologie. Hein. Donc il y avait des biographes qui écrivaient très sérieusement la biographie de Sherlock Holmes à l'époque. Donc voilà pourquoi pas une espèce de réinvention geek 21e siècle de Conan Doyle. Je trouve qu'il y a, alors je ne me rappelle plus exactement bien de l'univers de Sherlock Holmes à ce point-là, mais j'ai refait un peu des recherches et il y a un côté assez virtuose effectivement et jouifi dans la récupération de cet univers hyper référencé, hein. Donc Sherlock Holmes joue au violon comme le vrai Watson, qui était un peu son géographe à l'époque, qui écrivait les enquêtes dans des livres.
Là il fait un blog,
Il a des grosses lacunes en culture générale, tout ça c'est assez drôle. Il y a même ce petit détail assez amusant, c'est que tout au début de Sherlock Holmes, Watson est blessé en fait à l'épaule dans le livre, tout comme dans la série où il revient d'Afghanistan. Et en fait, il avait été blessé à l'épaule dans le livre pendant la seconde guerre afghane, anglo-afghane de 1879. Donc, c'est assez drôle, ouais, les clins d'œil qui font comme ça. Bon, il y a un petit côté parfois un peu expert ami-ami avec les SMS qui apparaissent à l'écran et ça. Bon, c'est un peu too much, mais passons.
Je trouve aussi que c'est un peu ça le... Pardon, je t'ai interrompu.
Mais vas-y.
Non, mais je trouvais que c'était ça aussi qui était... Au début, quand on découvre la série, un peu dommage, c'est que finalement, ces histoires de détectives de Sherlock Holmes s'inspiraient tellement d'autres histoires, enfin aussi bien les experts que de mentalistes ou machin ou monk ou simplement Dr. House, quoi. Que dans le premier épisode, dans la première saison, on voit vraiment toutes ces références qui reviennent, quoi. On a l'impression de revoir...
Moi, ça m'avait tenu à l'écart dans un premier temps.
Tout à fait. Et finalement, ce qui sauve la série, c'est que ça reste une série complètement anglaise, avec, comme tu le dis, toutes les... Tous les renvois à la véritables histoires de Conan Doyle.
Oui, même old school dans le déroule, dans ce que ça raconte, mais c'est la manière de le raconter qui est super moderne.
C'est les SMS, c'est la télévision.
De toute façon, je pense que les séries et les fictions policières, de toute manière, n'ont plus que ça. C'est trouver une manière, ça, on l'a bien vu avec True Detective récemment, c'est trouver la manière de raconter une histoire qui a déjà été racontée tellement de fois. Ouais. Vous imaginez, il y a, je ne sais pas moi, une vingtaine d'épisodes de chaque des experts. Miami, machin, tout ce que tu veux, Steno Kersey, il y en a 160 des experts. Il y a à chaque fois deux intrigues par épisode et il y a, je sais pas, 10 saisons, 12 saisons. Rien que pour ça, imagine le nombre d'histoires de meurtres, ouais, de manières de tuer qui ont déjà été. Tout, qu'est-ce qui n'a pas encore été dit à ce niveau-là?
Plus que les intrigues même, c'est la manière de les présenter aussi, de certains personnages types qui reviennent. Enfin, voilà, le personnage de Sherlock Holmes, de son côté complètement asocial, c'est des choses qu'on a revues dans plein d'autres détectives.
Mais là, on peut pas soupçonner Conan Doyle.
Tout à fait.
C'est ça.
C'est voilà, ça, c'est ça qui est intéressant.
Intempore non suspectu, ouais. Comme aurait dit Isaline.
Isaline, tu m'enlèves les mots de la bouche de ce corps.
Non, mais c'est vrai que moi, je trouve que ce qui est quand même un peu rafraîchissant dans cette série, c'est qu'ils se permettent du coup des scènes complètement improbables que des séries avec une espèce de perspective plus réaliste n'auraient pas pu. Et typiquement, Sherlock, c'est vraiment la série passive par excellence, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce plaisir de se laisser complètement porter par l'intrigue, de regarder Sherlock arriver sur la scène de crime, attendre que son espèce de cerveau décode un scanner fasse tout le boulot, hein, cette espèce de fameuse méthode de déduction. En gros, il a à faire des conclusions absolument impressionnantes à partir de détails absolument insignifiants. Et c'est quand même un moment pour le cerveau assez jouissif, je trouve, le moment où Sherlock expose ses conclusions à partir de ce qu'on a tous vu, de ce qu'on aurait tous dû voir et qu'on n'a rien vu, c'est-à-dire la qualité du tissu, de la chemise.
Parce que nous, on est un peu le docteur Watson, à chaque fois le docteur Watson.
On est complètement le docteur Watson à chaque fois, et voilà, la moindre trace de boue, l'intempérie sur la veste, machin, et voilà, et je trouve que du coup, une espèce de paresse intellectuelle à regarder cette. Et un vrai plaisir aussi pour le cerveau. Moi, j'ai quand même le petit bémol que. Mais c'est pas un bémol au final, c'est que ça m'a complètement donné envie de me replonger dans les vrais Sherlock Holmes. Avec un petit côté réac où je me disais, oh, bah, en fait.
C'était peut-être mieux avant.
C'était peut-être mieux avant, ce Sherlock Holmes, avec sa pipe, sa casquette pied de poule, son McFarlane et son monocle, et ce Londres, voilà, de cette époque-là, qui, pour le coup, je trouve Londres, mais de nouveau, j'ai vu que la première série, mais la première saison, mais me semble assez métallique et assez froid. J'ai presque envie de replonger dans les Conan Doyle.
Ouais, c'était génial, c'est Sherlock voilà. Holmes, j'ai tous lu.
Moi, je regardais le dessin animé dans Nouba Nouba. Il avait une super chanson, ce dessin animé.
J'adorais aussi.
Avec des chiens, c'est ça.
Dans la manière de raconter les histoires, il y a même, je pense, dans la troisième saison, un épisode où il y a un discours de mariage de Sherlock Holmes, je crois que le docteur Watson se marie, et l'intrigue se passe à travers le discours de Sherlock Holmes, qui est en train de raconter ce qui s'est passé pendant une enquête alors qu'il est en discours de mariage. Et donc il y a quand même chaque fois une manière d'un peu réinventer cette façon d'amener ces intrigues qui sont effectivement des intrigues qu'on connaît et tout, mais je trouve quelque chose de vraiment comme tu dis, il y a un plaisir, un vrai plaisir coupable à regarder ça.
Moi, s'il y avait une masterclass des auteurs, je pense que j'irais.
Ouais, Stephen Moffat, il est vraiment,
c'est hallucinant,
il est très 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 fort.
Bon, et bien sur ce, moi je mets carrément 9 sur 10 à cette série, parce que vraiment, je pensais que j'allais pas aimer, c'est pas mon genre de truc, et ça m'a complètement cueilli, j'ai été bluffée. Laurent.
Un bon 8.
Un bon 8. Isaline, par rapport à la première saison que tu as eue.
Un 7.
Oui. Moi, je vais mettre 8 aussi.
Ah ouais. Bon, j'ai oublié de vous dire que j'avais mis cette série au programme parce qu'en fait, sa troisième saison ne va pas tarder à sortir chez nous en DVD, donc on pourra la regarder tout à fait légalement et l'offrir à nos parents. Hein, voilà.
Et la quatrième sera plus probablement pour janvier prochain.
Merci Guy pour cette précision.
De rien.
Tu m'as croisé cette fois-là. Que voyais-tu dans mon regard écru? Tu ne voyais que toi là. Que croyais-tu? Que pensais-tu? Que voulais-tu de moi là? Qui pensais-tu tirer entre deux rues? Tirer entre deux beaux draps là. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas.
François Andy Atlas Mountain, comme son nom ne l'indique pas. C'est un groupe français porté par François Marie, qui est aussi peintre aquarelliste on the side. Et c'est pas franchement étonnant, parce que les chansons de son sixième album Piano Ombre sont comme des petits tableaux, un peu translucides, aériens, pop, boisés aussi. Sur le plan de la mélodie, des arrangements, c'est d'une grande beauté. Par contre, sur celui des paroles, là, moi, j'ai complètement calé des paroles et de la voix. J'ai même eu l'impression d'écouter en boucle le sketch de la troupe des Farfadets de Limoges par Élise Semoun. J'ai trouvé ça à la fois inutilement opaque et snob et presque auto-parodique. Quant à la voix de François, bah, c'est tout simplement celle d'Elie Semoun pour qui a écouté son disque de bossa. Voilà, je suis désolée. Laurent, toi qui critiques...
Des... Franchement, attends, quand t'es un chanteur, imagine t'es un chanteur, t'as pris quoi, 3, 6, 8 mois, 1 an à faire un disque, et puis quelqu'un de une Myriam Leroy, lambda, whatever, te compare à Elie Semoun. Comment tu dois te sentir?
Mais mal, mal, mais c'est pas mon but. Bon, j'ai essayé aussi d'un petit peu, comment dire, caricaturer ma position, parce que je sais que vous, vous êtes client, n'est-ce pas, Laurent?
Ouais, plutôt. Ouais. Bah, c'est dur, évidemment, d'enchaîner après Elie Semoun, mais...
Est-ce qu'on va bien pouvoir... Ouais.
Mais cela dit, moi, j'avais des réserves aussi, j'en ai longtemps eu avec François, que je trouvais parfois, en effet, un peu maniéré, ah, oui, un peu précieux, comme ça. Et puis, un jour, j'ai vu le garçon en concert, et là, on voit plus clairement tout le potentiel et tout le côté ludique de la démarche, et c'est léger, quoi. C'est vraiment oui, complètement. Moi, je trouve que c'est de la pop très personnelle, mais en même temps extrêmement accrocheuse, extrêmement personnelle. Il y a un truc très
léger,
inventif.
Tu sais que cet album parle de la mort et des années Sarkozy.
Je sais, mais il le fait d'une manière tout à fait gaie. Et le clip de la chanson La Vérité, par exemple, mm-hmm, a été réalisé par Mathieu Demy, qui est donc le fils de Jacques et de Agnès. Mm-hmm. Et donc, lui aussi parlait de choses très graves, mais de manière extrêmement légère. Et il y a ce truc, au-delà de l'esthétique un peu comme ça, un petit bateau, un peu maniéré, il y a un vrai côté euphorisant, comme ça, une vraie énergie, un vrai truc assez contagieux et qui, moi, me plaît énormément.
Oh,
ouais.
Ouais, j'aime bien quand il dit les choses cash comme ça. Ouais. Ouais, bon, Isaline, bon, toi, je sais que c'est toi qui nous a obligés à mettre ce disque à l'agenda cette fois-ci.
Ouais,
donc j'imagine que tu vas le défendre.
Moi, je suis complètement amoureuse de François Lettre, La Fontaine.
Ah, oui.
Moi, je suis très sensible à leur univers. Je trouve que c'est une sorte d'adhésion sentimentale et intellectuelle à la fois, le cœur et la tête. Je trouve qu'il y a les rythmes que j'adore et les textes qui posent dessus. Pour le dire vite, on est un peu dans un truc entre Vampire Weekend et Dominica, donc forcément...
C'est ce que dit sa page Wikipédia.
Ça pouvait
tu es démasqué.
Mais je
tes chroniques sont issues de Wikipédia.
Vrai. Tout à fait. D'ailleurs, la notice suivante, je vous la lis.
D'ailleurs, c'est une farce que Vampire Weekend, je vois... Enfin, ou alors je... Non ou...
Bah oui, la vérité quand même,
hein,
un truc...
Oui.
Oui, il y a un vrai truc africain dans
aussi,
cette musique-là, quoi, qui roule
africain,
et qui est très. Ah oui, complètement.
Oh, je trouve ça tellement français, bleu, blanc.
Non,
rouge.
Eh ben justement,
pas
du tout. En fait, il a beaucoup voyagé et on le sent, quoi. Je trouve qu'il intègre vraiment des sonorités d'ailleurs. Ouais, effectivement, des sonorités africaines.
Un truc très liquide, comme ça, très chaud, très un peu bouillonnant, frémissant, comme le jazz éthiopien et tout ça, et ce genre de truc.
Ah oui, forcément, tu as des références que je ne possède
pas.
Pas
du tout.
De la même manière qu'on pourrait dire.
Le jazz du sud de l'Éthiopie, alors, plutôt. Le jazz du nord de l'Éthiopie.
Enfin, c'est pas tout. Non,
c'est pas confondre avec.
Et de la manière qu'on pourrait dire, pourquoi est-ce qu'il se met à chanter anglais en plein milieu du disque? En fait, il a vécu quand même plusieurs années à Bristol. Enfin, ça fait partie de son histoire. Et tant pis s'il chante en anglais avec un accent français pas possible. Enfin, ça fait partie de lui, quoi. Je crois qu'il y a quand même quelque chose de beaucoup plus vrai que ce qu'on veut bien croire dans sa démarche. Je trouve que c'est franchement parler musique à cette émission, c'est un peu l'exercice le plus difficile.
Ouais,
Et je trouve que c'est toujours chouette quand un disque cite un peu des influences, des déclics, des inspirations dans lesquelles on peut aller chercher des images. Et François-Marie, donc, il a donné une interview à Julien Broquet dans les pages du Focus.
Excellent.
Et il explique que certains morceaux ont été inspirés par la peinture, donc Magritte, il cite Magritte, et d'autres par certaines photos de Marja Pirila, c'est une photographe finlandaise que je ne connaissais pas du tout, j'ai été voir sur son site. Et elle a comme ça un univers très coloré, très romantique et onirique, avec des surimpressions, presque des intrusions d'arbres et de nature dans des intérieurs, qui vont effectivement très très bien à ce disque. Il cite aussi Twin Peaks, je trouve
c'est
effectivement quelque chose. Je trouve que c'est vraiment une musique comme ça, traversée de plein d'univers, une pop pleine de grâce et de couleurs. Il y a des images très bigarrées, très chatoyantes, très, très soyeuses. Et c'est des morceaux qui se terminent sur des rythmes qui lâchent comme ça la bride, et c'est vrai que pour l'avoir expérimenté en concert, je trouve ça absolument génial. Ça donne presque lieu à des espèces de transe collective où
tout
le monde danse. Il y a un truc très léger, très joyeux.
Très joyeux.
Très,
très
bon, et quand est-ce qu'il vient défendre ce disque sur cette chaîne?
Au mois de mai, c'est même le 20. Je pense qu'on a une Nuit du Botta. Absolument.
Bon, eh bien, je n'y serai pas. Guy, tu es
moi
seras,
non plus.
Toi non.
On fait autre chose à ce moment-là?
Oui, on ira à Pizza ou un truc.
On se refait des épisodes de Sherlock.
Non, ça t'a pas convaincu?
Non. Vraiment pas. Enfin, vraiment pas. Non, je trouvais ça un peu précieux et pas, j'aime pas, ça me parle pas. Voilà. Je okay. dis pas que c'est pas bien, que les textes sont pas bien écrits, mais par exemple, on avait chroniqué Florent Marchais il y a un petit moment.
Oui, moi
je trouvais qu'il y avait une proposition plus intense, plus, je sais pas, plus intéressante chez Florent Marchais, même si forcément il n'y a pas lieu de les comparer. Voilà, mais enfin. Ici, la musique me.
Mais c'est déjà une erreur de le référer à l'univers français, quoi, à l'univers de la chanson française. Il est vraiment.
Mais justement, moi,
il est signé sur
ça.
Un label anglais, par exemple.
Oui, mais ça m'a fait penser à.
C'est un type à marinière.
Elle parlait d'autoparodie, et ça me faisait un peu penser à de la parodie de ces chanteurs français, de l'espèce de nouvelle vague d'il y a quelques années, un peu précieux, des Delerme et des gens comme ça.
Et, non, pas Delerme.
Mais moi, ça m'a fait penser à ça, et ça m'a laissé complètement hacké. Je peux lui reconnaître des qualités à cet album. Il en a certainement, et il y a quelques gimmicks dans certaines chansons qui sont sympas, mais c'est trop aérien. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a pas de trip, pas de compte. Enfin, voilà.
Il y a un truc aérien certainement, mais si on écoute un peu les paroles, ça ancre beaucoup plus dans quelque chose de. Enfin, ça parle quand même de rupture amoureuse, de rêves brisés. Enfin, il y a quand même quelque chose d'assez sombre, je trouve, dans les musiques. Mais je trouve que finalement, oui, ça s'appelle Piano Ombre, et sur la pochette qui est très belle, d'ailleurs, c'est une forêt comme ouais. ça, avec un grand cercle rouge. Et je trouve que c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment une. La forêt, ça va très bien à cet mm-hmm. album, à ce groupe en général. Il y a quelque chose de romantique, hein, la forêt,
évidemment, un grand symbole
romantique. Et puis à la fois un peu énergisant et d'ancestral, comme une balade en forêt. Je trouve qu'il y a. Voilà. Oui, c'est vraiment qu'il y a un livre, oui, en fait, ça pourrait. Mais un disque qui arrive à être assez positif et euphorisant sur des thèmes assez sombres et. Et romantique et torturé, je trouve. Ouais, ça emmène ailleurs, quoi.
Mm-hmm. Bon, moi, ça m'a emmené ailleurs.
Là ouais. on sent que vous êtes un peu perdu.
Loin de la pièce.
Ah oui, vraiment, là, ça m'a tellement pas parlé. Enfin, si, ça m'a parlé d'Elysée.
Tu peux pas dire qu'il n'y a pas de qualité.
Non, tout à fait. Musicalement, c'est bien.
Ça peut te toucher ou ne pas te toucher. En l'occurrence, moi, ça m'a pas touché.
Et parfois, en changeant un peu de perspective, en se décollant un peu, on peut voir des choses que vous n'avez peut-être pas vues tout de suite.
C'est possible.
Tout à fait. Avec un peu de vaseline, tout rentre très bien.
Exactement. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure, Guy.
Ah bon?
Voilà.
Bon.
régime détox.
Ah oui, c'est vrai. Voilà. 6 sur 10 pour moi, pour ce disque, parce que je crois que François se moque de personne, mais que moi j'avais un petit peu envie de me moquer de lui quand même.
C'est tellement bien ça.
Oui.
Moi je mettrais un 8.
Waouh!
Wow. Un bon 8 aussi, oui.
Moi je vais mettre 6.
Ok. Bon, et bien dans Focus, tu l'as dit, Laurent, c'est Julien Broquet qui a chroniqué ce disque, qui nous parle d'un disque à découvrir d'urgence, qui touche à la cime, et il a évidemment beaucoup aimé. Le livre de la semaine, c'est le grand gagnant du prix Première, qui couronne un premier roman à travers un jury de lecteurs dont notre bonne Isaline était quoi? La présidente, la directrice, la reine
Je ne sais pas comment appeler ça, la présidente du comité de présélection.
D'accord. Et c'est le Belge Antoine Waters qui a gagné au nez et à la barbe, je pense, du phénomène littéraire d'Édouard Louis. En finir avec Eddie Belgueule, oui, tu me dis oui. Il a publié Nomère chez Verdier, c'est une histoire d'exil sur fond de guerre du Liban, d'exil d'amour filial contrarié dans une langue très très belle, très poétique, un peu psalmodié comme ça, hein, qui une sorte de transe assez envoûtante. C'est un livre de pur langage ou presque. On va chercher du plaisir dans la ciselure des phrases plus que dans le récit. Moi, je l'ai quand même trouvé un peu long, alors qu'il est très court. Isaline, toi, je sais que tu l'as évidemment beaucoup aimé et beaucoup porté, ce livre.
Oui, c'est vrai que je l'ai beaucoup aimé. C'est un livre qui m'a beaucoup touchée et qui, en plus, a l'avantage d'être un livre à plein de niveaux de lecture, je trouve. Le début du livre, pour qui n'a jamais lu Antoine Waters, parce qu'il est poète par ailleurs, ouais. Donc il a déjà publié des livres en fait, mais c'est son premier roman, est un peu déstabilisant.
Oui,
c'est comme
j'ai
ça,
entendu que les lecteurs avaient eu du mal à se plonger dedans, parce que c'est assez opaque au début.
On peut le comprendre, hein. C'est vrai ouais. que c'est voilà, une espèce de mélange de mots, d'images, de sonorités comme ça qui viennent se heurter sur la page, et quelque chose d'une abstraction hein, qui est très belle, mais qui est un peu abrupte au départ. Et peu à peu, je trouve qu'il y a une ligne narrative comme ça qui se dessine. C'est pas donné d'emblée. C'est un livre, je trouve, où il y a beaucoup de silence, beaucoup de blanc, beaucoup d'ellipses. C'est pas un livre qui explique les choses.
D'ailleurs, je suis pas sûre de l'avoir tout à fait compris.
Mais voilà, en fait, c'est enfin, Antoine Auters le dit, hein, dans sa démarche, c'est un romancier qui veut laisser beaucoup de place et beaucoup d'implication à son lecteur. Donc, il a beaucoup retiré de la matière de son livre pour laisser beaucoup de silence et donc de place au lecteur. Donc, c'est clairement pas un roman bavard, malgré quand même la richesse des mots, je trouve, qui est là. Mais c'est un roman vraiment qui fait voir et qui fait ressentir. Il faut un peu rentrer dans ce pacte-là, je pense. À partir du moment où c'est fait, je trouve qu'on voit les choses, on voit le pays comme ça du Proche-Orient. On est sans doute au Liban, hein, mais c'est pas exactement dit.
C'est pas dit.
On voit ce petit garçon qui est enfermé dans le grenier par sa mère, qui est une mère complètement dépressive, démissionnaire, voilà. Et on aurait pu rester dans le livre d'un poète, c'est un peu l'écueil du livre, je trouve, et en fait pas, parce qu'il y a une histoire puissante qui arrive, et un premier niveau, c'est effectivement un récit de guerre et de résilience, un petit garçon qui se sauve finalement de toute la douleur du monde et de sa mère et de la mort de son père. Et un autre niveau, je trouve que, évidemment, hein, ce que le livre met en jeu, c'est la naissance d'un écrivain, et je trouve qu'il le met très très bien en jeu, puisque voilà, le livre raconte comment un jeune garçon qui s'écorche sur une réalité très âpre finit par se sauver par la puissance de l'imagination, des mots, et finalement c'est exactement le rôle du romancier, hein, se tenir un petit peu en marge du monde, et c'est tout à fait la position de ce jeune garçon qui est dans sa grotte, cette espèce de grotte. Il y a quelque chose de presque platonicien, hein, c'est-à-dire qu'il y a des choses du monde qui lui arrivent, des odeurs, des visions.
Il ne les voit pas.
Voilà, il ne les voit pas, il imagine. Et c'est vraiment le rôle de l'écrivain, donc recevoir les bribes du monde et se composer un univers. Et je trouve que ça, c'est extrêmement bien mis en scène dans le livre.
Laurent, tu te tiens l'estomac, tu as mal au ventre.
Pas du tout, c'est mon café de la machine à café qui...
Je pensais que tu prenais les mots d'Isaline comme un uppercut en plein abdomen.
C'est je trouve qu'en effet, l'écueil du livre, ça reste malgré tout son côté poétique. Donc, il faut vraiment s'attacher aux mots et y mettre une intention. Et si on ne la met pas, ben, on passe forcément à côté de pas mal de choses. Et c'est un roman qui est très lent, avec une écriture très blanche, comme ça. Et très répétitif par moments.
Des
scènes comme ça qui reviennent régulièrement. Et donc, il faut un peu passer
comme
ça.
Comme on peut imaginer l'univers de ce garçon complètement répétitif.
Oui, tout à fait. Mais donc, il faut accepter ça, comme tu disais, cette espèce de pacte poétique. Et qui, voilà, moi, c'est là que c'est un peu mes réserves, mes limites par rapport au bouquin. Après, je trouve que le thème, ouais, le thème de la mère, des mères, même, est tellement... vital, crucial ici. Enfin, la manière dont il le traite est quand même assez par moments remuant. Je trouve qu'il arrive à super bien décrire. Enfin, c'est vraiment tout l'enjeu du roman, c'est de montrer comment une mère, enfin les mères, que ce soit la vôtre, la mère de vos enfants, enfin, toutes ces femmes qui deviennent mères, non pas parce que forcément elles ont accouché d'un enfant, mais ça doit pas forcément être leur enfant. On voit vraiment qu'il y a deux mères dans le roman, pour être un peu plus explicite.
Une
qui adopte et une mère naturelle. Et toutes les deux sont un peu emprisonnées comme ça dans les mêmes tourments, dans cette espèce de volonté de couver complètement son enfant, quitte à l'étouffer. Enfin, il y a quelque chose à le culpabiliser et en même temps à vouloir le libérer. Enfin, il y a quelque chose de très... très oppressant comme ça dans la manière dont sont présentées les mères, qui moi je trouve que c'est assez bien réussi, c'est très touchant. Ce côté dépressif et anxiogène qu'elles peuvent dégager, alors voilà, c'est même parfois dérangeant dans le livre, mais c'est son grand atout, sa grande qualité, je trouve, d'arriver à dégager ça et cette thématique là
Oui,
absolument.
Oui, Guy. J'attendais que tu rebondisses parce que je te voyais pénétré par les paroles de Laurent.
Ah non, pas du tout. Ah si.
En fait, je n'écoutais pas.
Voilà. Non, mais oui, en fait, moi, c'est un peu. C'est ce bouquin, c'est un peu comme. Par exemple, moi, j'aime pas les huîtres. Oui. Eh bien, néanmoins,
Tu as goûté?
Je peux voir qu'il y a parfois des bonnes huîtres. Mm-hmm. Et je me dis, pour la personne qui aime bien les huîtres, ça doit être totalement irrésistible de manger les huîtres en question. Eh bien, c'est un peu pareil avec ce bouquin, dans la mesure où, de fait, je peux comprendre totalement que ce soit un plaisir pour les gens qui aiment vraiment lire. Parce qu'il y a un travail sous la langue qui est qui est vraiment.
Mais toi, tu aimes vraiment lire, Guy?
Oui, je suis pas un si grand amateur de littérature. Je dois bien le reconnaître. J'aime bien lire, mais.
Quoi?
Mais je suis pas. Non, mais je suis pas un spécialiste parce que j'ai plein d'autres. Voilà, et puis j'ai pas. Voilà, bref, je suis pas un spécialiste. Donc, en revanche, je trouvais que c'était particulièrement bien écrit, mais ça me parle pas, de nouveau. Et je dis de nouveau en référence au disque, même si le disque m'a saoulé, ici ça m'a pas saoulé, ça m'a juste pas parlé en fait, parce que l'histoire m'a pas parlé et limite j'aurais préféré qu'on la raconte de manière un peu plus simple et pour m'attacher vraiment au personnage. Là ça m'a tenu à distance en fait, ça m'a tenu à distance de l'intrigue en elle-même.
C'est d'une fois de plus un livre pour cerveau aventureux, enfin oui, pour gens qui c'est pas... ça comme tu dis, oui, qui aiment les mots quoi.
C'est vraiment
qui
aiment
s'attarder 2 heures sur une phrase.
Oui, sauf que ce sont pas des mots compliqués, il faut juste à un moment accepter de leur donner plus de sens qu'a priori ils ne dégagent quand tu les lis de.
Mais je pense que c'est aussi le genre de bouquin que tu dois lire dans un bon contexte aussi peut-être. Peut-être que j'étais pas dans le bon contexte, peut-être que j'étais trop pressé de le lire, peut-être que. Mais c'est certainement pas dénué de qualité. Ça, c'est certain. Simplement, voilà, moi, je suis resté un peu à distance. Et voilà, mais je sens qu'il y a une vraie intention et que c'est probablement un très bon livre pour les gens qui ont eu le temps de bien le digérer et de bien l'analyser et qui, surtout, ont tous les codes pour pouvoir. Voilà.
Et c'est pour ça que c'est d'autant plus impressionnant que ce soit un jury de lecteurs qui ait couronné ce bouquin.
C'est
je
vrai.
Trouve.
Bon, sans doute, c'était des lecteurs assez exigeants. Ouais. Mais c'est vrai que le livre d'Antoine Wauters se détachait quand même par son originalité, par son ton quand même.
Et vous n'avez pas donné le prix à Édouard Louis parce qu'il en avait déjà eu suffisamment ou vous en aviez déjà entendu suffisamment parler?
Ça a été très serré, pour tout dire, entre les deux. Et finalement, je crois qu'ils étaient contents de porter un roman qui, effectivement, aurait peut-être moins, même si ça n'a pas été un critère déterminant, mais qui aurait peut-être moins de. Qui avait plus besoin quelque part de ce prix qu'un Édouard Louis avec Eddie Bellegueule qui par ailleurs était largement couvert. Voilà. Mais je pense que ce qui a été aussi assez bien salué dans le livre d'Antoine Wauters, c'est vrai que c'était un vrai pari, c'est que vu le thème de la guerre, les mères démissionnaires, on sait quand même des sujets extrêmement lourds, voilà, la blessure, la folie. Et on n'est pas du tout dans le livre sec et froid qu'on aurait pu redouter, je trouve. Hein. On est dans un livre lumineux et je trouve qu'il va chercher justement sa beauté, sa lumière dans la sensualité, dans la musicalité de la langue. Et c'est vraiment, au final, je trouve un livre extrêmement, pour peu qu'on y plonge, mais extrêmement olfactif, extrêmement bruissant, extrêmement sensuel, et donc qui peut parler de manière très, très directe aussi. Enfin, c'est pas qu'un livre intellectuel.
Oui, voilà. Il y a des scènes de sexe assez crues.
Voilà,
d'ailleurs.
Et puis aussi, je pense qu'il parle des éclats de bombes et des tirs de Kalachnikov, comme il peut parler de, je sais pas, des odeurs de fleurs d'oranger ou du pain au sésame. Fait quelque chose d'extrêmement. D'extrêmement. Étonnant dans cette cohabitation dans le livre. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'une littérature très vitale, très tonique, quelque chose de beau dans sa conception finalement du roman, puisque c'est de nouveau, je le répète, mais c'est un poète qui passe au roman, et donc quelque chose de fort aussi dans ce geste-là. Quoi.
Je pense qu'à l'issue de cette émission, ton fan se fera tatouer encore ton nom, mais sur
le
l'autre fesse. Oui. Bon, moi je mets 7 sur 10, mais c'est difficile à côté, hein, parce que moi, je pense que je suis un peu comme Guy, j'ai trouvé ça très beau, mais ça m'a laissé un petit peu hacké. Voilà, quand même 7 sur 10 pour Nos Mères d'Antoine Wauters.
Pareil.
Laurent.
7.
Isaline.
Moi je vais mettre un bon 8, et vraiment ça fait longtemps qu'en littérature belge, on n'avait pas vu émerger un tel talent, quoi, je trouve.
Moi je mets un 7 parce que c'est une belle huître.
C'est une belle huître. C'est vrai, mais il faut. Elle a un peu du mal à l'ouvrir. Hein, Bref, c'est un roman paru chez Verdier. Pour terminer, comme d'habitude, nos coups de cœur. Hein, Guy, tu n'as pas oublié d'en préparer un?
Eh bien, non.
Ah, waouh. Eh bien, moi, j'en ai 2. Figurez-vous, mais ils sont très courts. Le premier, c'est la fin de True Detective, qui a ravi dans mon cœur la place de meilleure série de ces dernières années à Top of the Lake. Je pleure déjà beaucoup, beaucoup sur l'absence de Matthew McConaughey dans la deuxième saison. Je suis vraiment en deuil, d'autant que, apparemment, c'est Brad Pitt qui va.
C'est en.
Oui,
ça se dit. Moi, j'ai regardé pour la deuxième fois, en fait, True Detective. J'ai refait la série.
Oui, tu disais ça dans ton papier, que ça prenait.
C'est encore mieux.
C'est encore mieux
quand tu la regardes une deuxième fois.
Ça m'étonne pas. Bref, on vous conseille évidemment tous d'urgence le visionnement de ces 8 épisodes à la fois très très classiques et prodigieusement uniques, hein. Oniriques, hantés, envoûtés, eux aussi, vraiment un petit bijou. Et mon deuxième coup de cœur, c'est le retour des Black Keys, parce qu'en fait c'est toujours bien les Black Keys. L'album sortira en mai, le single tourne déjà, il s'appelle Fever, il est un petit peu trop FM à mon goût, mais j'attends quand même le reste avec une certaine impatience, parce que ça fait toujours du bien par où ça
c'est,
passe.
C'est raciste, c'est ça que tu veux dire?
Raciste?
Il est FM...
FM, je veux dire, radio, tu vois, formaté pour la bande FM. Laurent, qu'est-ce, toi, le single, tu peux nous en dire quelque chose?
Je l'ai écouté tout à l'heure, j'ai pas forcément été conquis, donc je vais m'arrêter là.
D'accord. Et toi, ton coup de cœur, c'est quoi?
C'est un trio rap écossais.
Ah ouais?
Ah oui.
Ah, ceux qui ont fait la tribu de Donna.
Non, ça, c'est Celtic.
C'est un groupe qui s'appelle les Young Fathers. Là aussi, c'est en les voyant sur scène que j'ai eu une révélation. J'avais déjà pas mal aimé le disque qui est sorti en début d'année. Ils sont venus à la baie il y a quoi, un mois et demi. Et il y a un truc d'assez fascinant à les voir sur scène. Donc ils sont trois, deux Africains, un Écossais d'Édimbourg. Il y a un mec qui joue la batterie derrière, et c'est à peu près tout ce qui se passe sur scène. Donc il rappe à trois, il y a la batterie derrière, il y a un côté très tribal comme ça, très enivrant. Ça reste donc du rap, du hip-hop, mais un peu expérimental, alternatif, avec un côté sombre, mais en même temps quelque chose de très, à nouveau, comme je le disais un peu avec François et Atas Montes, je me répète, mais assez euphorisant. Donc, eux comparent ça un peu aux marches funèbres à la Nouvelle-Orléans. Non, mais à la Nouvelle-Orléans, où il y a une fanfare ça de cuivre qui donne le pas, et où il y a un côté très joyeux, un événement triste, mais en même temps une manière très joyeuse de l'exprimer. Et donc, il y a vraiment ça dans cette musique. Voilà, ils sont apparus il y a 4-5 ans, mais avec un truc, ils faisaient du hip-hop, mais toujours un peu sur le côté, mais à l'époque on parlait des Beastie Boys écossais.
Ah oui.
Voilà, parce qu'il y avait un côté beaucoup plus jumpy, sautillant, joyeux et tout ça. Ici, c'est beaucoup plus sombre et noir, mais il y a quelque chose toujours de très, très énergique, de très vital. Et ces garçons reviennent au Pickle Pop notamment.
Ah. Et voilà, mais qu'est-ce que tu nous disais hors antenne sur l'enthousiasme tant qu'on y est pour
Dis-le
un peu.
Oui, c'est le nouveau
L'enthousiasme et la nouvelle subversion.
Exactement.
Voilà. Redis-le un peu.
L'enthousiasme et la nouvelle subversion.
Ah, Isaline Parisi, c'est ce que tu pourras faire mieux que ça.
Je suis très enthousiaste et très subversive envers le livre de Eudora Welty, qui s'appelle Le Brigand Mal-Aimé, aux éditions Cambourakis. Alors, c'est un vieux roman qui date de 1942. Alors, Eudora Welty, elle est née en 1909 et morte en 2001. C'est une photographe et romancière américaine très oubliée, qui fait partie de ce qu'on appelle la littérature sudiste, aux côtés de Flannery O'Connor ou de William Faulkner, dont elle était une grande amie. Elle a eu une vie assez époustouflante de platitude, puisqu'on ne lui connaît pas du tout de liaison. Elle n'a, pour ainsi dire, jamais quitté sa maison natale de Jackson, dans l'état du Mississippi. Elle va publier beaucoup de nouvelles, pas mal de romans aussi. Elle reçoit le prix Pulitzer en 1973. Et en fait, tous ces titres qui ont été traduits en français dans les années 70 sont devenus complètement introuvables pour la plupart d'entre eux. Et la bonne nouvelle, c'est que les éditions Cambourakis annoncent une réédition... une série de rééditions de cette romancière. Alors, le livre qui ouvre la danse, ça s'appelle Le Brigand Mal-Aimé, je l'ai dit, bien aimé. C'est un court roman donc, de 1942. Ouais, on est vraiment au temps des pionniers, des Indiens, des bandits et des missionnaires. Le livre est l'histoire de Rosamonde, une jeune cendrillon mythomane et romantique qui fait les frais de la haine de sa marâtre de belle-mère avant de se réfugier dans les bras musclés de Jamie Lockhart, un amant ténébreux et brigand des bois, voleur d'argenterie anglaise et de scalp d'Indien. On a vraiment toute cette ambiance de poussière, d'orage, de parfum fumé du sud des États-Unis. Les répliques sont absolument géniales, les quiproquos complètement vicieux. C'est violent, c'est féerique, c'est drôle et ça ferait un très très bon film des frères Cohen. Le Brigand bien aimé de Eudora Welty aux éditions Cambourakis.
Si on plonge ta main dans ta tasse de thé.
Oui, absolument, il faut voir les gestes là. Le poing dans
un fist fucking à ta tasse. C'est pour se lécher les doigts après. Nous faire des sensations.
Bon, Guy, c'est quoi ton coup de cœur?
Oui, alors moi, bon...
C'est la Libre Belgique que tu feuillettes tout à l'heure.
C'est la deuxième saison de Banshee.
Ah, de l'humour.
Non.
Non, c'est pas de l'humour, Banshee.
C'est pas de l'humour, non, pas du tout.
Ça sera coupé au montage. Mais,
voilà, non, non, c'est. Je vous avais parlé de Banshee l'année passée, je pense, qui était une série complètement bourrine, mais super addictive.
Ah, c'est fait. Pour ça que j'ai cru que c'était de l'humour.
C'est super addictif, c'est plein de bagarres, c'est plein. En fait, donc l'histoire à la base, c'est un mec qui a passé 15 ans en prison pour avoir fait un casse avec sa copine de l'époque, un casse de diamant qui a mal tourné. Lui, s'est retrouvé en prison, on n'a jamais dénoncé, donc il a passé 15 ans là, sort de prison, va essayer de retrouver cette femme qui a changé de nom entre temps. Et suite à une bagarre, le shérif meurt de la petite cité dans laquelle il se trouve. Le shérif meurt et donc lui va prendre l'identité du shérif. Donc quelque chose de complètement invraisemblable, mais ça fonctionne assez bien et comme je dis, c'est produit notamment par Alan Ball qui est le père de True Blood et de Six Feet Under. Et donc derrière ce côté outrancier qu'il y a sans arrêt, c'est-à-dire que les bagarres, il y a du sang, des bagarres, il se tape dessus et il se relève et il a la tête cabossée. À tous les épisodes, il y a du sexe tout le temps. C'est un truc un peu comme on n'ose plus en faire, mm-hmm. quelque part. Et c'est un côté, c'est ça qui fait tout son charme à cette série, c'est que c'est too much, over the top et tout, mais qu'il y a un tas de scènes qui sont absolument superbes et vachement bien maîtrisées. Et sur le long terme, c'est quand même vachement addictif. Et donc, voilà, la deuxième saison s'est terminée il n'y a pas si longtemps sur Cinemax aux États-Unis. Et je suppose que ça devrait tôt ou tard arriver sur nos chaînes.
Ou pas.
Ou pas. Mais c'est typiquement le genre de truc qui va arriver sur Plug un jour dans 3 ans, le mardi après-midi, quoi. Voilà. Mais c'est top, franchement.
Ok, Banshee donc.
Ouais.
Merci Guy. Bah voilà. Écoutez, c'est tout, hein. C'est tout pour cette fois. Ça nous a semblé tellement court. Le temps passe vite quand on s'amuse. Merci de nous avoir suivis. Aimez-nous sur facebook.com/focusstore. Aimez-nous tout court. Et lisez-nous chaque semaine dans Focus avec le Vif L'Express. Merci à l'équipe. Salut les gars.
Salut.
Salut à tous.
Et salutations distinguées. Bien à vous cordialement. Au revoir.